Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Nous sommes le jeudi 25 avril, 8 mai 1974, il y a 50 ans jour pour jour. À Lisbonne, c'est le matin, il est 10h dans la capitale portugaise, le ciel est gris, mais les œillets sont en fleurs. Et dans l'une des rues qui mènent sur la Praça do Comércio, la célèbre place du commerce bordée du ministère qui fait face au Taj, il n'y a pas de bruit. Et pourtant, il y a du monde. Si habituellement ce sont les ouvriers, les étudiants et les marchands ambulants qui martèlent du pied la calçade portugaise, cette chaussée composée de petits carreaux de calcaire noir et blanc, là, la rue et les trottoirs sont occupés uniquement par des hommes en uniforme. Et deux camps se regardent en chien de faïence. D'un côté, celui des militaires qui forment le MFA, le mouvement des forces armées, et veulent le renversement du pouvoir, la fin de la dictature et la mise en place d'une démocratie. C'est pour cela qu'ils ont préparé un coup d'État depuis de longs mois. Face à eux, le général Junqueira dos Reis et ses soldats. Lui obéit aux ordres du gouvernement en place, celui de Marcelo Caetano, le président du Conseil portugais, l'équivalent du chef du gouvernement, un ancien ministre des colonies proche de Salazar, à qui il a fini par succéder à la tête du pays en septembre 1968. Et évidemment, ce dictateur, comme son prédécesseur, ne veut pas s'incliner et donner le pouvoir à des socialistes, pire, à des communistes. Ne rien céder aux insurgés, ne jamais laisser mourir le fascisme. 40 années d'État novo, l'État nouveau en français, ne vont pas disparaître en une journée parce que les capitaines qui refusent de continuer à faire la guerre dans les colonies l'ont décidé. La situation semble donc mal engagée pour la colonne des militaires rebelles qui ont réussi à prendre possession de la place du commerce quelques minutes auparavant. Il faut agir, et vite. Soudain, Salgueiro Maia, un jeune capitaine de 29 ans, s'avance seul, un mouchoir blanc dans une main et une grenade dans la poche, en direction du général et de ses blindés. Il le sait. Un seul mot du haut gradé et il est criblé de balles. Cet ordre, qui pourrait sceller son destin, le général le prononce. Feu ! Il hurle sur ses soldats d'abattre ce jeune capitaine qui se bat pour la démocratie. Feu ! Vocifère-t-il de nouveau. Mais rien n'y fait. Ces hommes sont à leur tour emportés par ce vent de liberté. Tous déposent les armes et rejoignent leur camarade Salgueiro. Il en aura fallu de peu au capitaine pour voir sa carrière et surtout sa vie voler en éclats. Il peut à présent poursuivre sa mission avec ses insurgés, le renversement de la dictature autoritaire créée par Antonio de Oliveira Salazar il y a un demi-siècle. Et cette révolution a débuté quelques heures auparavant, en pleine nuit.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Vous l'entendez, la célèbre chanson de José Afonso, Grando la Vila Morena. Cette chanson est diffusée en pleine nuit, à minuit 20 plus précisément, sur une radio portugaise très écoutée, Radio Renaissance. Vous me direz, rien de surprenant que de mettre de la musique à la radio, mais pour le commun des mortels, cette chanson pourrait presque passer inaperçue, presque oui. Car il s'agit quand même d'une chanson contestataire qui dit que c'est le peuple qui commande à Grandola et son auteur est communiste. Mais pour les militaires qui s'apprêtent à renverser le pouvoir, elle prend tout son sens. C'est le mot de passe, le signal qui indique à l'ensemble des unités à travers le pays que le coup d'État, puisque c'est bien d'un coup d'État dont il s'agit, est lancé. L'opération Virage historique a commencé. Pour orchestrer cette opération très risquée, un homme a été nommé, le major Otelo Sareva de Carvalho. Depuis un quartier général improvisé dans la banlieue de Lisbonne, il donnera ses instructions aux capitaines insurgés. Et ils sont nombreux à décider de désobéir à leur chef et vouloir renverser le pouvoir. On parle d'environ 2000 hommes. On les appellera plus tard les capitaines d'avril, ceux qui ont réalisé la révolution. Mais en attendant, tout reste à faire. Il est donc minuit 20 et à partir de cet instant, tous les capitaines se mettent en mouvement. Leur premier objectif est de rallier à leur cause un maximum de leurs camarades. Alors, il les réveille en pleine nuit, les persuade de ne plus aller faire la guerre dans les colonies, mais plutôt de se battre pour la paix, l'instruction et la nourriture dans leur propre pays. Et quand des hauts gradés, des généraux principalement, tentent de s'opposer à ce soulèvement, les militaires les enferment le temps de constituer une unité. Maintenant que plusieurs unités ont rejoint le mouvement révolutionnaire, la priorité de ces courageux soldats est de prendre d'assaut les principaux points stratégiques du Portugal. L'aéroport de Lisbonne, les ministères, la télévision, les radios. Et à 4 heures du matin, une grande partie de leur cible est déjà atteinte. L'effet de surprise a joué et ils sont confrontés à peu de résistance. Pour autant, le stratège de ce coup d'État, Oscar, le nom de code d'Hôtel ou de Carval, ne veut prendre aucun risque. Alors, à 4h26, il fait diffuser un message à la radio. Autant la chanson de José Afonso était destinée aux militaires, autant ce message est directement adressé aux Portugais. Il leur est clairement expliqué qu'une opération militaire est en cours et que pour la sécurité de chacun, ils doivent rester enfermés chez eux. Le pays est donc à cette époque sous le joug de la dictature salazariste et le gouvernement pourrait ne pas hésiter à tirer et tuer alors des civils comme des militaires pour rétablir l'ordre. Otelo Sarev, Carvalho et ses camarades capitaines d'Avril sont obsédés par l'idée d'avoir un coup d'avance sur le gouvernement. Alors, ils ont fait installer des téléphones et des tables d'écoute dans leur quartier général. Ainsi, Otelo peut écouter les conversations des ministres. Le jour est à peine levé et le plan, minutieusement préparé depuis plusieurs jours, se déroule comme prévu. Le jeune capitaine Salgueiro Maia, arrivé tout droit de l'école de cavalerie de Santarém avec sa colonne militaire, pénètre même sans difficulté avec ses blindés dans le cœur de Lisbonne pour venir occuper ce qu'on appelle alors le Terreiro do Paço, la place du commerce. Ce point de chute est l'un des plus stratégiques. C'est ici que siègent les banques, la radio Marconi, les principaux ministères. Donc, réussir à en déloger les occupants est essentiel pour renverser le régime. Le problème, c'est que l'homme que tous les militaires rêvent de voir tomber, celui dont on espère la reddition immédiate, Marcelo Caetano, refuse de se rendre. Le président du Conseil a trouvé refuge à la GNR, la Garde nationale républicaine. Au premier abord, le choix ne paraît pas illogique et pourtant c'est l'une des pires décisions qu'a prise le responsable de la police. Ce bâtiment est situé en plein cœur de Lisbonne, sur l'une des 7 collines de la ville et il est encerclé de rues. Tant et si bien que les militaires n'ont qu'à faire le tour pour l'empêcher de s'échapper. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Le capitaine Salgueiro Maia et ses troupes arrivent sur cette place appelée Largo do Carmo et positionnent leurs chars face aux troupes fidèles au régime. Le message est clair. Le président du Conseil et les ministres qui l'accompagnent ont tout intérêt à se rendre, sinon un bain de sang est plus qu'envisageable. De sa fenêtre, Marcelo Caetano voit bien ses militaires prêts à en découdre. Et ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas que des soldats qui l'attendent en contrebas et qui exigent sa démission. Et c'est peut-être cela qui lui fait le plus peur. Abat le fascisme, plus de guerre coloniale. Ces injonctions n'émanent pas des militaires, ce sont les paroles des Portugais, des gens du peuple. Car malgré les consignes diffusées toute la nuit à la radio, les Lisboètes n'ont pu s'empêcher de sortir de chez eux, d'arpenter les rues à la recherche des blindés et prendre part eux aussi à ce coup d'État pour renverser le régime. Ils se sont trop tus pendant près d'un demi-siècle de dictature, alors désormais ils veulent faire entendre leur voix. Ils ont plusieurs milliers d'hommes, de femmes à braver le danger pour rejoindre ces soldats, ces capitaines. Spontanément, ils leur offrent du pain, des boissons, du tabac, car cela fait plus de 12 heures qu'ils n'ont pas fait de pause, qu'ils ne se sont pas sustentés. Sur la place Largo do Carmo, où dès midi, les événements se cristallisent, les civils se mélangent aux militaires. Beaucoup grimpent aux arbres, aux poteaux de signalisation, sur les rebords des fontaines, sur les épaules de leurs amis. Ils veulent en être de ce moment qu'ils espèrent historique. Mais il tarde à venir. Alors le jeune Salgueiro Maia téléphone à Oscar, le stratège Otelo Sarev de Carvalho. Que faire ? La réponse, il la connaît déjà. Il l'avait prévu dans les plans qu'ils ont échafaudés. Le capitaine doit tirer sur la façade pour montrer que le mouvement n'est pas une simple mutinerie. Il s'agit d'un soulèvement global et les insurgés sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Salgueiro Maia prend alors son mégaphone et prévient à intervalles réguliers le président du Conseil que s'il ne se rend pas, il intimera l'ordre de tirer sur la caserne. Il demande à la foule de reculer, de se mettre à l'abri. Nul ne sait comment les gardes vont réagir à cette attaque. Une première rafale de mitraillettes se fait entendre. On attend quelques instants, aucune réaction. Une deuxième salve de tir, toujours aucune réaction. On positionne les blindés face aux fenêtres. Pendant tout l'après-midi, les insurgés à l'extérieur, le président du conseil et ses quelques ministres à l'intérieur campent sur leur position. Enfin, à 18h, Caetano accepte de parlementer, mais avec un militaire de haut rang. Hors de question pour lui de discuter avec des officiers subalternes, qui plus est traîtres à la patrie en fomentant un coup d'État. Le général de Spinola est donc choisi pour venir s'entretenir avec lui. Ce général n'est pas un inconnu du gouvernement en place. Il a notamment côtoyé de près les terribles guerres coloniales. Il a été envoyé à la fin des années 60 en Guinée-Bissau pour commander les troupes. Mais depuis quelque temps, il a pris ses distances avec le pouvoir dictatorial portugais. Il a d'ailleurs écrit un livre, « Le Portugal et son avenir », dans lequel il critique la politique coloniale de l'État. Il s'est donc rapproché du mouvement des forces armées et souhaite visiblement lui aussi le renversement du régime. Pendant plusieurs minutes, il s'entretient avec le président du conseil. Et peu avant 19h, après avoir assuré à Marcelo Caetano que les militaires ne menaceront pas sa sécurité, il reçoit officiellement la démission du gouvernement. Marcelo Caetano vient de céder. Il rejoint sous bonne escorte l'aéroport de Lisbonne, direction l'île de Madère, puis le Brésil. C'est là-bas qu'il finit ses jours. Il ne reviendra jamais au Portugal, de peur d'être jugé. À Lisbonne, ce 25 avril 1974, la journée est loin d'être terminée, car si le gouvernement n'est plus, la police politique, elle, résiste. Elle a semé la terreur pendant plus de 40 ans auprès de la population et ses membres ne semblent pas prêts à s'avouer vaincus. Alors que militaires et civils se réunissent devant les locaux de ce qui s'appelle officiellement depuis 1969 la DGS, tout le monde l'appelle encore la PID, Police Internationale et de Défense de l'État, des coups de feu retentissent. Ils ne proviennent pas des militaires qui, pendant toute la durée du coup d'État, ont mis un point d'honneur à éviter les fusions de sang. Non, ces coups de feu sont l'œuvre de la police politique. Au total, on dénombre 5 morts, 4 du côté du peuple et un membre de la PID. Quelques heures plus tard, cette police politique tant redoutée accepte à son tour de se rendre. C'est finalement vers 1h du matin à la télévision nationale que le général de Spinola annonce officiellement la chute de la dictature salazariste. En 24 heures, de jeunes capitaines accompagnés par les Lisboètes ont terrassé un régime dictatorial de près d'un demi-siècle. Car, on a tendance à l'oublier, mais la dictature portugaise est la plus longue que le XXe siècle a connue en Europe. Et elle a été incarnée pendant plusieurs décennies par un homme, un professeur devenu dictateur. António de Oliveira Salazar s'empare du pouvoir en 1928 comme ministre des Finances suite à un coup d'État militaire en 1926, avant d'être nommé président du Conseil en 1932 et de créer l'année d'après ce qu'il appelle l'État nouveau, l'Estado Novo, un régime politique répressif, policier, qui va gâcher pendant 48 longues années la vie de millions d'habitants au Portugal. Le pays le plus pauvre d'Europe, ne cherchez pas ailleurs. Le Portugal est le pays le plus pauvre d'Europe jusqu'en 1974 et António de Oliveira Salazar n'y est pas pour rien. Avec son régime autoritaire, conservateur et nationaliste, il n'a que faire de son peuple et ne fait rien pour le tirer vers le haut, pour améliorer son quotidien. Ce serait même dangereux. Si les Portugais se mettaient à manger à leur faim et à vivre mieux, à s'instruire, ils pourraient se révolter contre l'ordre immuable des choses et contre un régime salazariste qui n'est en rien égalitaire et démocratique. Ce n'est pas pour rien que jusque dans les années 70, l'économie portugaise repose pour beaucoup sur l'agriculture. Une agriculture désuète, accusant un retard immense face à des pays comme la France ou l'Allemagne, alors que le secteur industriel, comme le textile, n'offre que des salaires de misère. Les Portugais peinent à joindre les deux bouts. Leurs enfants sont bien souvent obligés d'arrêter l'école avant 10 ans pour aider aux finances de la famille. Le nord et le centre du Portugal sont des régions particulièrement touchées. Et en prenant la tête du pays, Salazar veut instaurer un climat de peur dans la population. Les Portugais émigrent massivement, en France notamment, et beaucoup de jeunes hommes refusent de faire le service militaire dont la durée passe à 4 ans en 1968. Le dictateur met en place une police politique qui espionne, traque toute personne susceptible de représenter un danger pour l'État ou simplement qui exprimerait une critique envers le gouvernement en place. L'opposition politique est très difficile, les journaux sont contrôlés. Les textes des journalistes, des écrivains, des chanteurs sont relus, modifiés, rejetés. Une grande poétesse, Sophia de Mellobrunner, écrit alors que même la voix de la mer devient exil. On murmure que le dernier qui quitte le pays éteint la lumière. La police est partout, la justice nulle part. Les tortures psychologiques comme physiques sont nombreuses, comme dans les prisons de Caxias ou Tarrafal. Certains détenus sont privés de sommeil pendant plusieurs jours et on estime à 30 000 le nombre de personnes incarcérées sous Salazar et plus tard sous Caetane. Cette terreur ne vient pas forcément du charisme du professeur Olivera Salazar qui, comme le décrit notre invité cet après-midi, l'historien Yves Léonard, dans la biographie qu'il lui consacre, s'exprimait en public en lisant froidement et d'une voix nasillarde des textes soigneusement écrits et démonstratifs, cherchant à gagner en intelligibilité et en profondeur ce dont ses discours manquaient tant en termes d'émotion et de passion. Non, cette peur était présente du matin au soir où vous étiez espionné chaque minute au marché, au café, à l'université, partout. Et comme les Portugais, pour beaucoup, avaient reçu une instruction sommaire, rappelons qu'en 1970, un tiers encore de la population est analphabète, le régime s'appuie sur cette crainte des citoyens d'être emprisonnés, d'autant qu'une autre menace plane sur la tête des hommes en âge de combattre. Car si on ne peut pas lui reprocher une chose à Antonio Oliveira Salazar, c'est d'être têtu. Alors que dans les années 50, toutes les grandes puissances européennes acceptent tant bien que mal l'indépendance de leurs anciennes colonies, Salazar lui refuse catégoriquement de céder la moindre autonomie à ses territoires d'outre-mer. Il engage donc son pays dans des guerres coloniales sanglantes. Les peuples autochtones ne supportent plus la domination de l'empire salazariste. C'est en Angola que les premiers combats débutent en 1961. Un an plus tard, ce sont les habitants de la Guinée qui se rebellent à leur tour, suivis l'année suivante par les Mozambicains. Au départ, l'armée portugaise dispose de soldats bien mieux équipés que ses adversaires, de chars moins vétustes. Mais très vite, les locaux rattrapent leur retard de matériel et donnent plus que du fil à retordre aux militaires envoyés par le régime salazariste. Ce qui ne devait être qu'une guerre rapide se transforme en bourbier dévastateur. Au total, 8000 militaires portugais perdront la vie dans ces combats, sans parler de ceux qui reviendront avec des membres amputés et des séquelles psychologiques graves. Alors forcément, du côté du peuple portugais, la colère gronde. Non seulement sous Salazar, puis sous son successeur Caetano, la vie quotidienne est plus que pénible. Les divorces sont interdits, les femmes sont soumises juridiquement à leur mari. La semaine de travail ne compte qu'un jour de repos, évidemment le dimanche. Il n'existe aucun parti politique d'opposition autorisé. Les enfants doivent souvent quitter l'école avant 10 ans pour travailler. Mais si en plus les familles se retrouvent décimées car les hommes servent de chair à canon dans des colonies dont on ne comprend plus l'utilité ni l'intérêt, malgré la propagande sur la nation une et indivisible du Minho à Timor, c'en est trop. Ce sentiment d'injustice se répand de Viana do Castelo au nord à Lagos dans le sud du pays et il touche toutes les couches de la population. Ces guerres durent depuis 13 ans et vont donc être l'étincelle qui décidera un certain nombre de capitaines à se rebeller et à créer le MFA, le Mouvement des Forces Armées, pour abattre le régime fasciste. Un régime qui ne disparaît pas lorsque Salazar est victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'éloigne définitivement du pouvoir en 1968, mais dure bien des années encore. La dictature tombe et ce rêve devient enfin réalité le 25 avril 1974 avec la chute en une journée de Caetano, celui qui a pris le contrôle du pays après lui. Mais désormais, c'est tout le Portugal qu'il faut reconstruire. Le Portugal entre alors dans ce qu'on appelle le PREC, le processus révolutionnaire en cours. Le peuple, trop longtemps bridé, décide de reprendre le pouvoir. Et cela commence par des initiatives concrètes sur le terrain. Ainsi, les appartements vacants sont occupés par des familles qui ne trouvaient pas de toit. Dans les usines désertées par les patrons, depuis le coup d'État, les ouvriers décident de s'organiser et de gérer eux-mêmes leurs lignes de production. On parle de 300 usines occupées. Un tiers de la population, soit 3 millions de Portugais, est syndiqué. Dans les grandes exploitations agricoles du centre du pays, les paysans reprennent eux aussi la gestion du domaine. Il ne se passe pas un jour sans qu'un journal, une radio ne parle de la révolution portugaise et cela dépasse largement les frontières. En France, en un an et demi d'avril 1974 à novembre 1975, ce ne sont pas moins de 131 du monde qui sont consacrées au Portugal et son effervescence révolutionnaire. Oui, on en a compté autant. Les politiques comme François Mitterrand ou Georges Marchais posent aussi le pied à Lisbonne dès le mois de juillet 1974 pour s'imprégner de cette ferveur de la gauche. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et de nombreux intellectuels leur emboîtent le pas. Chaque jour, des manifestations, des meetings, des concerts sont organisés. Le Portugal expérimente ainsi pendant 2 ans une sorte de laboratoire à ciel ouvert dans lequel toutes les initiatives pour reconstruire le pays sont envisagées. Et puis, en parallèle, des élections sont organisées pour stabiliser politiquement le pays libéré. Le 2 avril 1976, après plusieurs tentatives de putsch, l'actuelle constitution portugaise est adoptée et le général António Ramalho e Anés est élu président de la République. La page se tourne enfin. De cette révolution, que reste-t-il ? Des acquis sociaux principalement, la création des syndicats de travailleurs, l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, la pluralité en matière de presse, le droit de grève, le salaire minimum, bientôt un système national de santé gratuit et universel. Mais la révolution portugaise a également eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur ce petit pays du sud-ouest de l'Europe à travers son nom. Un nom qu'elle doit à une fleuriste, Céleste Caeiro. Ce jeudi 25 avril 1974, la jeune femme est censée, comme tous les jours, vendre au restaurant de la ville ses fleurs, en majorité des œillets parce que c'est la saison. Mais tous les commerces sont fermés sur ordre des militaires. Alors, en repartant chez elle, Céleste croise des soldats près du Rocio, en bas de l'avenue de la Liberté, les Champs-Élysées portugais. Ils lui demandent si elle n'a pas des cigarettes. Mais Céleste n'en a pas, mais elle leur propose des œillets, la plupart rouges. Les militaires acceptent la proposition insolite et accrochent leurs fleurs, soit à la boutonnière, soit au canon de leur fusil. La légende est née et désormais la révolution portugaise est entrée dans l'histoire sous le nom de Révolution des œillets.